Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Ben, j'imagine qu'avec le retour de la chaleur, ça vous fait sentir un petit peu mieux, tout comme moi. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M, Marianne Paquette, derrière le microphone. Aujourd'hui, en deuxième partie de l'émission, on s'intéresse à la réadaptation de l'enfance à l'âge adulte. Donc, les étapes, les transitions et tout le processus au long de la vie. Vous dire qu'au Canada, il y a près de 100 000 adolescents qui éprouvent des limitations physiques, ce qui représente à peu près 4,6 % de la population des jeunes. Et pour eux, la transition la plus délicate, la plus critique peut-être, du moins on le découvrira, c'est sûrement celle qui mène vers l'âge adulte. Comment on peut assurer un suivi qui est adéquat, une approche appropriée, adaptée aux nouveaux besoins du jeune qui devient un adulte, et aussi, ça c'est très important, de maintenir et de favoriser l'autonomie. Et le trio idéal pour que tout ça se fasse bien, c'est bien sûr avec la présence du jeune en question, mais aussi de son parent et de spécialistes de la santé. J'en aurai deux, justement, tout à l'heure, deux ergothérapeutes. Noémie Dahan-Oliel, elle est ergothérapeute du côté de l'hôpital Shriners pour enfants, et également Cynthia Gagnon, elle, du côté de l'Université de Sherbrooke. Tout ça en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on vous parle de la lumière bleue dont on entend parler pas mal ces dernières années, en bien, en mal, peut-être parce qu'elle est omniprésente, cette lumière que l'on appelle également la lumière d'elle, omniprésente dans notre quotidien, hein, autant dans nos écrans de téléphone intelligents, nos tablettes numériques, ordinateurs. C'est une lumière qu'on ne s'en rend peut-être pas toujours compte, mais que vous pouvez retrouver au travail, dans vos bureaux, sur la route. C'est un choix qui est assez adopté, de plus en plus adopté par les familles parce qu'elle est économique, elle ne dépense pas trop d'énergie, écologique aussi, mais quels sont ses effets sur notre santé? Ça, on en sait un petit peu moins et on peut être facilement mélangé parce qu'on en dit plein de choses. On va tenter d'avoir l'heure juste avec Martin Aubé, il est professeur de physique au Cégep de Sherbrooke et expert en pollution visuelle et lumineuse. Martin Aubé, bonjour.
Bonjour.
Un expert en pollution visuelle et lumineuse, il ne doit pas en avoir des centaines ici au Québec.
Au Québec, non, on a quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une seule main. À l'échelle de la planète, il y en a un petit peu plus. On est peut-être une centaine à travailler sur ce sujet-là.
Martin, j'ai appris en préparant cette émission, cette entrevue, que DEL signifie diode électroluminescente et que les chercheurs qui ont découvert cette lumière-là ont gagné récemment le prix Nobel de physique. Un prix mérité, selon vous, Martin?
Ah, tout à fait. C'est une révolution, en fait, dans le domaine de l'éclairage. Maintenant, c'est sûr que, comme on va en parler un petit peu, il y a des effets secondaires non désirés dans certains cas. Mm-hmm. Ça dépend toujours de l'application qu'on fait de n'importe quelle technologie, hein, c'est la même chose. Quand est-ce qu'on utilise cette lumière-là? Pour quel usage? Donc, c'est la question qui est importante à se poser.
Et la quantité aussi, ça, on y reviendra.
Oui.
Maintenant, comment on reconnaît la lumière bleue? Parce que ce qui me semble assez contradictoire, c'est que nous, ce que l'on voit à l'œil humain, c'est de la lumière blanche.
Oui, c'est un bon point. En fait, pour expliquer la perception de l'œil humain, l'œil humain s'est adapté à l'éclairage solaire, pardon. Donc, le soleil, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'il contient toutes les longueurs d'onde, toutes les couleurs, si on préfère, qui sont perceptibles. Puis lorsqu'on a un mélange, un bon équilibre entre toutes les couleurs, bien, ce qu'on voit, c'est du blanc. C'est ce que le cerveau interprète, si vous voulez. Donc, pour avoir du blanc, ça prend du bleu. Alors, si on pense aux DEL, aux diodes électroluminescentes qu'on peut voir maintenant qui s'installent petit à petit dans nos rues, dans nos villes, bien, souvent, elles sont blanches, ces lumières-là, puis donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles contiennent quand même une bonne proportion de bleu, un peu à la manière de ce qu'on retrouve dans le soleil.
J'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient omniprésentes, ces lumières-là. Est-ce que c'est vrai, on en retrouve vraiment maintenant partout? Est-ce que c'est ce que l'on utilise principalement?
Ben, faut voir, ça dépend de l'application. En fait, si on parle de l'éclairage extérieur, la majorité des lumières sont encore à base de sodium à haute pression, sodium haute pression qu'on appelle, donc qui sont des lumières plutôt jaunâtres, là, que je pense que la plupart des gens ont déjà vu dans nos rues.
Oui.
Maintenant, il y a plusieurs villes qui font une transition en ce moment, puis ça, c'est à l'échelle de la planète, pas seulement au Québec, là, vers la dalle blanche. Et puis là, ça change complètement le décor, là, parce que la dalle blanche, elle est blanche. On voit une grosse différence.
Okay.
Pourquoi ça pose... Ou on la voit aussi, pour terminer cette question, c'est dans les technologies, entre autres, d'affichage, hein, dans tous les téléphones cellulaires, les écrans d'ordinateur, par exemple. Puis aussi l'éclairage domestique. Mais l'éclairage domestique, c'est peut-être un peu moins répandu jusqu'à maintenant. Les gens n'ont pas encore tous fait la transition.
Mm-hmm. Donc, par la couleur, on pourrait distinguer la lumière d'elle de la lumière au sodium, ne serait-ce que par cette couleur jaunâtre. Puis aussi, je crois, par les ombres, hein, qui sont plus difficiles à distinguer avec les DEL.
Oui, en fait, c'est vrai. L'éclairage a un aspect un peu différent parce que les DEL, c'est des lampadaires qui vont être composés de plusieurs petites lumières plutôt qu'une seule, comme c'est le cas avec les lampes au sodium. Donc, ça change effectivement un peu les ombrages. Maintenant, il faut faire attention. Quand on parle de DEL, il faut distinguer, en fait, le DEL tout court. La DEL, une chose, mais la DEL blanche, c'est autre chose. Ce qu'on utilise actuellement dans nos rues, la plupart du temps, ce sont des DEL blanches.
Mm-hmm.
Mais il existe d'autres type de DEL. Par exemple, je donne l'exemple de ma propre ville, ici à Sherbrooke, qui a fait ce choix-là pour la santé des citoyens, d'installer ce qu'on appelle des DEL ambrées. Puis ces DEL-là sont plutôt jaunâtres, un peu comme les lumières au sodium. En fait, il n'y a pas une très grosse différence au niveau de la teinte. Donc, plus jaunâtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de bleu ou presque pas. Là, c'est une infime quantité. Même, je dirais que les nouvelles DEL ambrées contiennent moins de bleu que le sodium qu'on a dans nos rues.
Et ça, c'est important de le mentionner, Martin, parce que les impacts que l'on redoute sur notre santé, ça vient de la lumière bleue. C'est la lumière bleue qui pourrait interférer sur nos rythmes circadiens, entre autres choses.
Exactement. Dans le fond, le corps humain, comme tous les organismes de la planète, l'ont évolué avec deux régimes lumineux, le régime de jour, le régime de nuit. Le jour, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est le soleil. Donc, c'est clair là, que notre système, en tant qu'être humain, est bien adapté le jour à un éclairage qui contient du bleu. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Même, c'est bénéfique d'avoir du bleu. Ça nous donne plus d'énergie, etc. Tout le monde a déjà cette impression-là quand il y a un beau ciel bleu. Là, c'est pas pour rien. Ça agit directement sur nos systèmes hormonaux.
Mm-hmm.
Donc, par contre, la nuit, naturellement, ce qu'on devrait avoir, c'est l'obscurité. Avec un petit cycle de lumière très faible de bleu qui vient une fois par mois, qui est la pleine lune. Donc là, ce qui arrive en ce moment, en fait, c'est qu'avec les éclairages artificiels, on met une lumière bleue en quantité beaucoup supérieure à ce qu'il y a dans la pleine lune, mais de façon permanente.
Oui. Et tous les jours aussi, lorsqu'on regarde nos téléphones intelligents, nos tablettes numériques, parfois même c'est l'habitude de le faire avant d'aller se coucher.
Oui.
Est-ce que, justement, je m'intéresse à cette fréquence-là, est-ce que c'est d'une part la lumière bleue qui a un impact sur notre santé ou plutôt cette fréquence qui peut avoir des effets qui seraient moins bénéfiques pour nous?
En fait, c'est le fait d'avoir du bleu. Une particularité de la DEL bleue actuelle qu'on a entre les mains, là, celle qui a donné lieu au prix Nobel dont vous faisiez mention tout à l'heure, c'est qu'il y a un pic de lumière bleue assez concentré. Un bleu particulier, puis qui correspond précisément à la sensibilité de notre œil. En fait, notre œil a une cellule, si vous voulez, des cellules qui détectent la lumière bleue. Puis c'est la fonction de ces dispositifs-là, c'est simplement de nous indiquer le jour se lève, c'est le jour, c'est le temps de s'activer. Puis lorsqu'il n'y a plus de bleu, à ce moment-là, bien, on a plus un mode de repos. Donc là, ce qui arrive avec la DEL, c'est que non seulement on a une bonne quantité de bleu, mais malheureusement, c'est pile le mauvais bleu, si on veut, là, c'est celui qui nous réveille.
Oui.
Donc si on regarde les écrans le matin, par exemple, ou le jour, quand on travaille, moi, je ne suis pas ophtalmologiste, mais je pense qu'il n'y a pas un grand danger, peut-être un peu pour la rétine à long terme, mais au niveau de l'humeur, au niveau des effets sur la santé en général, là, les autres effets, je pense que c'est plutôt... Il n'y a pas un gros problème lié à ça. Le problème arrive lorsqu'on arrive vers la fin de la journée où on continue à regarder nos écrans, puis on va au lit tout de suite après. Là. Ça pose problème, effectivement.
Oui. Est-ce qu'il y aurait, Martin, des technologies qui pourraient être plus avantageuses que cette dalle blanche dont on parle depuis tout à l'heure?
Très intéressant parce qu'il y a des solutions déjà. C'est toujours la meilleure position de se placer en mode solution. Qu'est-ce qu'on a? Ben dans les rues, tout à l'heure, je l'ai mentionné, il y a maintenant des dalles ambrées. Donc, les villes qui font ce choix-là de mettre des dalles, comme la ville de Montréal a fait récemment. Donc, pourquoi pas choisir justement la dalle ambrée comme Sherbrooke l'a fait, puis d'autres villes dans le monde? Alors, c'est un peu plus cher, oui, c'est un peu plus cher. Bon. Mais si on pense à la santé, aux problèmes potentiels qui peuvent survenir au fil des ans, je pense que ça vaut la peine. Ensuite, au niveau du cellulaire, par exemple, ou les tablettes, il existe des petits logiciels, pour ne nommer qu'un seul, c'est F-Lux, L-U-X. Donc, qui est un logiciel qu'on peut installer sur les téléphones Android, notamment. Puis, ce que ça permet de faire, c'est que automatiquement, quand l'heure du coucher de soleil arrive, ben, le téléphone va migrer vers une lumière qui est un petit peu moins bleue, donc pour limiter les impacts à ce moment-là.
Donc, ce sont des petits trucs parce que ces impacts à long terme, ben, on possible, bien sûr, ces maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, dépression. Donc oui, il faut s'y intéresser et de se donner l'opportunité d'en discuter avec des experts comme vous, Martin Aubé. Vous êtes professeur de physique au Cégep de Sherbrooke, expert en pollution visuelle et lumineuse. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui, puis on suivra ça de près, parce que vous savez que nous, à Montréal, on pourrait, d'ici 5 ans, en voir apparaître de plus en plus des dalles blanches.
Oui. Le plaisir était partagé. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@vuzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour Noémie.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là, Noémie, dans Oliel. Vous êtes ergothérapeute, coordonnatrice investigateur en recherche clinique à l'hôpital Shriners pour enfants, également professeure adjointe à l'Université McGill. Cynthia, elle est prise avec ses étudiants, Cynthia Gagnon de l'Université de Sherbrooke. On n'a pas réussi à la joindre, donc ce sera un tête-à-tête entre nous, Noémie, pour cette discussion sur les services de réadaptation en déficience physique, les objectifs pour ces enfants qui deviennent des adolescents et des adultes. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on offre des services de réadaptation, Noémie, ce que l'on veut, c'est l'intégration, l'inclusion mm-hmm. du jeune. Est-ce que ces besoins-là, ils changent avec l'âge, à travers les années?
C'est une très bonne question. Je vais revenir un petit peu en arrière. Souvent, les premiers besoins qui sont adressés, donc avec une condition qui commence dès le jeune âge, dès la naissance, par exemple, c'est le cas chez les enfants qui ont une paralysie cérébrale, qui peuvent naître extrêmement prématurés, donc ont un délai de développement possible aussi, ou avec d'autres conditions aussi qu'on appelle congénitales, donc dès la naissance. Au départ, les objectifs en réadaptation vont vraiment viser l'amélioration des capacités fonctionnelles, si on veut, ou lorsqu'on parle de, par exemple, pour un jeune enfant, de commencer avec la motricité fine, la motricité globale d'abord. On va parler ensuite de la posture et chez ceux qui vont être affectés au niveau mental ou intellectuel oui. aussi, mmh. on va aussi développer ça. Le but ultime, ce que la recherche nous démontre, c'est que les jeunes et les parents veulent vraiment viser l'intégration sociale, une insertion. Mais que je dois dire qu'encore aujourd'hui, au niveau des réadaptations, beaucoup de nos soins sont encore axés sur l'amélioration des oui. limitations fonctionnelles d'abord, vu qu'aussi la majorité des soins au niveau de la réadaptation se font avant tout dans le jeune âge.
Oui.
Et des mmh. fois, on peut tendre à les perdre de vue un petit peu.
Oui. Est-ce qu'une réadaptation, bon, on comprend, ça se fait dès, j'imagine, le plus tôt possible, c'est ce que l'on souhaite. Oui, oui. Est-ce que ça peut se faire tout au long de la vie?
Ça aussi, c'est une bonne question. En général, l'enfant sera suivi activement lorsqu'on voit que les capacités s'améliorent, lorsqu'on voit qu'il y a un plateau, qu'il n'y a plus nécessairement de progression. On va faire plutôt des suivis pour s'assurer que les besoins ponctuels sont adressés. Par exemple, pour un enfant qui aurait un fauteuil roulant pour ses déplacements, l'ajustement avec la croissance. Est-ce qu'il y a intégration scolaire? Est-ce qu'à l'adolescence, on peut penser d'un cours de conduite?
Ouais. Mm-hmm.
Est-ce qu'on peut penser plus tard l'intégration professionnelle, s'intégrer dans un ouais. emploi? Donc, dépendamment des besoins qui vont survenir avec l'âge et les transitions, qu'on appelle des périodes de transition, donc rentrer à la maternelle, rentrer mm-hmm. à l'école primaire, rentrer à l'école secondaire et ensuite l'âge adulte, on va parler de besoins différents. Par contre, les défis au niveau de nos services de réadaptation sont que nos jeunes ne reviennent pas nécessairement une fois qu'ils ont été arrêtés d'être suivis activement.
Oui. Je le disais en introduction, la période, la transition probablement la plus délicate, la plus critique, c'est celle de l'adolescence à l'âge adulte, où là, il y a plein de choses qui se passent. On quitte le nid des parents, on veut se trouver un boulot, parfois on quitte pour l'université, pour des études supérieures. Comment on peut mieux encadrer le passage de ce jeune-là?
Mm-hmm. Alors oui, c'est sûr que à l'adolescence, beaucoup de choses se passent et puis que c'est important d'avoir dans les centres de réadaptation une personne dédiée à la transition. Donc, on était dans le cadre de l'ACFAS, justement, un oui. colloque qu'on a préparé, Cynthia et moi-même, hier, sur le continuum des services en réadaptation de la pédiatrie à l'âge adulte. Et on a réuni plusieurs conférenciers, donc des cliniciens, des gestionnaires, des représentants oui. d'organismes communautaires. Donc, il y avait au-delà d'une douzaine de conférenciers, chacun avec leur perspective. On avait deux témoignages de parents aussi. Donc, très important de ne pas oui. oublier l'usager primaire qui est le jeune.
Et sa famille. Hein?
Et sa famille, oui. Exactement. Et donc, tout ça pour dire que lorsqu'on peut mettre en place un partenariat avec ces équipes-là et avoir une personne dédiée à cette question de transition au niveau du centre de réadaptation en pédiatrie et au niveau du centre à l'adulte. La transition se fait beaucoup plus harmonieuse. Ouais. On a besoin aussi d'avoir des partenaires motivés et des jeunes et des familles qui sont engagés. Et aussi de connaître bien, de notre part, au niveau des cliniciens, des gestionnaires, les ressources qui existent pour être capable de transmettre cette information-là à nos usagers.
Et d'ailleurs, cette discussion d'hier dans le cadre du congrès annuel de l'ACFAS, c'était sur le continuum. Est-ce qu'il y en a entre experts, la consultation? Bon, je sais qu'hier, c'était l'objectif de cette rencontre-là. J'imagine d'essayer d'avoir une espèce de mode d'emploi ou une procédure pour que ça se fasse mieux.
Oui, alors plusieurs des centres ont des modèles de transition avec des fiches où ils vont prendre de l'information. On va commencer la transition qu'on appelle transition de l'adolescence à l'âge adulte vers l'âge de 14 ans. La plupart des centres de réadaptation suivent cette clientèle jusqu'à 18 ans. Nous, à l'hôpital Shriners pour enfants, on suit notre clientèle jusqu'à 21 ans. Et ensuite, on va essayer de faire le pont pour vers des centres de l'adulte. Mais je peux parler de deux exemples montréalais avec le centre de réadaptation Amébi Makai et son homologue, le centre de réadaptation Constance Lethbridge, qui va les suivre à l'adulte. Et puis, la même chose au niveau du centre de réadaptation Marie-Enfant, qui est affilié avec l'hôpital Sainte-Justine, mm-hmm. et le centre de réadaptation Lucie Bruno, voilà. qui va mm-hmm. les suivre à l'âge adulte mm-hmm. aussi. Et le programme TEVA, qui est la transition de l'école à vie active, est un programme très important qui va encadrer ces jeunes-là et les guider justement vers une vie active, vers une insertion sociale.
Oui. Guider les jeunes, c'est important. Bien sûr, j'ai envie de revenir sur l'apport des parents parce que tout au long, surtout lorsque notre enfant naît, déjà avec des besoins particuliers, on est souvent habitué à être très, très présent dans ses soins, dans ses suivis en réadaptation. À un moment donné, est-ce qu'il faut aussi outiller le parent à se retirer un petit peu de ce processus-là?
Oui, alors... Oui, quand on fait affaire dans des centres de réadaptation, dans des hôpitaux pédiatriques, notre clientèle, comme tu le dis bien, n'est pas juste l'enfant, mais la famille aussi. Oui. Et c'est important d'en tenir compte, c'est sûr. Mais aussi, il y a moyen d'outiller la famille à savoir dans les différentes étapes quand l'enfant fait son chemin au niveau de l'adolescence, de se retirer tranquillement lorsque c'est possible, avoir des buts réalistes. Et ça, je pense, ouais. c'est important de le travailler avec l'enfant, avec la famille, parce que chaque cas est différent. Et de voir ensemble qu'est-ce qu'on est capable de faire. On sait que faire des petites choses à la maison, faire son lit,
oui,
aider à la maison,
tâches, voilà.
exactement, mm-hmm. vont aider pour l'autonomie plus tard, commencer à penser à prendre son rendez-vous, si le transport adapté est un transport qu'on prend, commencer la réservation selon l'âge et selon le potentiel de chacun, mais commencer à outiller tranquillement pour pas que lorsqu'on arrive à 17, 18 ans, dire, oh, voilà, là, on te transfère de dossier, on te transfère de centre, de place, et là, c'est un petit peu l'inconnu.
Oui, et il y a des façons plus ludiques aussi de le faire. Hier, dans votre journée, dans le cadre de l'ACFAS, il y avait tout un volet sur le cirque social, qui est aussi mené, je pense, par un ergothérapeute du côté de Lucie Bruno, mm-hmm. et c'est par ces activités de cirque à apprendre, OK, je dois arriver à l'heure, je dois me déplacer, aussi toute l'inclusion sociale, d'avoir à discuter, à travailler en équipe. Est-ce qu'il y a de plus en plus des moyen de favoriser l'autonomie de ces jeunes-là qui sont en processus en réadaptation là, au cours de leur vie?
Oui, le cirque social est un exemple fantastique. Ça a été mené tout d'abord pour un projet de maîtrise et aujourd'hui, ce programme, cette offre de service continue au centre de réadaptation Lucie Bruno. Mmh. Donc, c'est un programme magnifique et justement, comme tu le dis, c'est beaucoup plus amusant, agréable et motivant d'arriver à ces buts-là, de développer l'autonomie prévocationnelle qu'on appelle. Donc, arriver à l'heure, être ponctuel, être bien mis, se laver, l'hygiène, les relations interpersonnelles, comment parler à une personne, comment respecter les droits de chacun qui vont venir dans le cadre de cette activité-là beaucoup plus facilement, beaucoup plus motivant. Oui. Et on doit nous aussi, en tant que cliniciens et chercheurs, trouver des moyens qui s'apparentent mieux avec les intérêts de nos jeunes, de nos jeunes adultes, pour être plus motivants et pour pour justement arriver à travailler sur ces buts-là.
Oui. C'est aussi le rôle du clinicien, du spécialiste de la santé, d'adapter son approche. Pour vous, bon, vous travaillez du côté de l'hôpital Shriners, donc je comprends que vous avez des enfants plus jeunes et peut-être aussi de jeunes adultes, des adolescents. L'approche se modifie.
Mm-hmm, absolument, oui. Alors, c'est sûr que lorsqu'on a un jeune enfant, notre approche va différer. On va vouloir avoir des activités qui sont appropriées par l'âge, pour les âges de chaque jeune qu'on a devant nous. Et je pense que ce qui reste important, c'est de toujours être à l'écoute de nos jeunes, savoir quels sont leurs objectifs, les rendre réalistes, mais les rendre possibles aussi, adapter quand c'est possible l'environnement. C'est sûr qu'on rencontre souvent des obstacles chez nos jeunes avec des déficiences physiques. On cherche toujours à adapter l'environnement. Quand on parle d'environnement, par contre, on tend des fois à oublier l'environnement social. Donc, l'environnement physique, des fois, c'est un défi à l'adapter. Il y a des barrières architecturales qu'on peut quand même pallier, mais quand même, il y a tout un volet au niveau de l'environnement social, les attitudes des autres. Donc, quand on parle de l'école, l'école est un partenaire important quand on parle de l'enfant. Et des fois, nos jeunes ont des petits besoins, par exemple, de l'aide juste à mettre le manteau pour un jeune qui aurait, par exemple, une amputation du membre supérieur ou une limitation à ce niveau-là. Et qu'il y a des intervenants qui sont plus motivés, plus ouverts à faire ce change de modification là au sein de leur milieu. Donc, au niveau du social, les attitudes sont très importantes aussi, l'ouverture des gens.
Oui, c'est intéressant parce qu'en introduction, je parlais du trio idéal, c'est-à-dire le parent, le clinicien et le jeune. Mais en fait, c'est un quatuor avec l'école du moment où l'enfant est d'âge scolaire. L'école doit s'impliquer aussi. Elle devient un partenaire très important dans la réussite de ce parcours-là et pour également amenuiser les obstacles. Hein, c'est ce qu'on souhaite, j'imagine. Le temps a filé très, très vite. Il reste une minute et demie. Une minute et demie, Noémie, j'allais vous appeler Cynthia, mais elle n'est pas là, Cynthia. On le rappelle qu'elle est prise avec ses étudiants du côté de l'Université Sherbrooke. En terminant rapidement, on a quelques secondes, qu'est-ce que cette journée d'hier vous a permis d'apprendre et où ça va vous amener?
Alors, la journée d'hier nous a vraiment eu un effet rassembleur. Plusieurs des conférenciers ne se connaissaient pas. On a eu aussi tout un volet au niveau des organisations communautaires, parce que j'aimerais rajouter l'importance de la communauté au niveau de l'insertion sociale du jeune entre l'adolescence et l'âge adulte. Et c'était vraiment important parce qu'on voyait que des différentes personnes se parlaient ensuite entre elles. Donc, il y a eu un effet de networking, si on veut, de connaissances. Et j'espère que ces partenariats-là vont durer pour s'entraider. Je pense que c'est la première étape de se connaître et de pouvoir travailler ensemble ensuite.
Pour le mieux-être et la santé des jeunes qui vivent avec une limitation physique et fonctionnelle. Merci beaucoup, Noémie Dahan-Lia. Je rappelle, vous êtes ergothérapeute, coordonnatrice investigateur en recherche clinique à l'hôpital Shriners pour enfants. Et on mettra le site également de ce très bel événement, congrès annuel de l'ACFAS, innovation, culture scientifique et comme vous le dites aussi, les rencontres entre scientifiques inspirants. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Merci, moi aussi.
Merci Jean-Sébastien, à demain, portez-vous bien, bye bye.